les enseignants de l'Église, enfin ceux qui s'occupent de l'enseignement en termes de direction, c'est-à-dire David et Colin, sous l'autorité des anciens, ont choisi de s'intéresser à un autre évangile. On a passé beaucoup de temps dans l'évangile de Jean, et là, cet autre évangile, c'est l'évangile de Matthieu. Alors, dans l'évangile de Matthieu, eh bien, ça sera un nouveau cycle sur l'un des grands discours de Jésus. Vous savez que dans la Bible, Jésus a fait beaucoup d'enseignements, mais il a passé particulièrement du temps sur un certain nombre de discours qui nous sont rapportés. Et parmi ces discours, alors, il y en a beaucoup dans l'évangile de Matthieu, non pas qu'il n'y en ait pas ailleurs, mais l'évangile de Matthieu est peut-être l'évangile le plus didactique. Vous savez que Matthieu s'adresse aux Juifs avant tout, et est focalisé sur la présentation de Jésus comme le roi des Juifs, le roi d'Israël, le Messie qui doit venir. Matthieu est d'ailleurs un enseignant. Dans son caractère même, Matthieu est un enseignant. C'est pour ça que, par exemple, le sermon sur la montagne, qui est l'un des premiers discours de l'évangile de Matthieu, qui est le premier, c'est un discours qui est regroupé sous une forme d'enseignement et qui est disséminé, par contre, dans d'autres évangiles. Donc, écrit pour les Juifs par un enseignant, et il décrit Jésus comme le Messie qui accomplit les prophéties de l'Ancien Testament. Il se focalise donc sur les discours et les paroles de Jésus. Alors, juste à titre indicatif, les autres grands discours de Matthieu, c'est Matthieu 10, le discours sur le discipulat. Jésus appelle ses disciples, il les envoie en mission, il les prévient des dangers, il les protège, il leur donne des avertissements et il leur donne des perspectives de récompense. Je fais rapidement un panorama des grands discours. Le troisième, vous connaissez, c'est les paraboles du royaume. Là encore, ils sont dans les autres évangiles, mais dans l'évangile de Matthieu, il y a un regroupement particulier pour la raison que je vous ai décrite précédemment. Ensuite, Matthieu 18, c'est l'instruction à l'Église. C'est vraiment le livre de chevet de l'ancien, du responsable d'Église. Comment exercer la discipline? Comment vivre le pardon et la réconciliation? Et enfin, les deux derniers grands discours. Matthieu 23, c'est la condamnation des faux leaders, la condamnation des pharisiens, qui est vraiment l'un des thèmes centraux des évangiles. Et enfin, le retour de Jésus, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, la deuxième venue de Jésus. Lorsque Jésus prendra place sur son trône, il va juger les nations et il va distribuer les récompenses. Donc ça, c'est les six grands discours de Jésus qu'on retrouve bien dans l'évangile de Matthieu. Et il y a, pour mémoire, un septième grand discours, comme par hasard le chiffre 7. Il y a un septième grand discours dans les évangiles. Et vous le connaissez, celui-là, c'est peut-être le plus long. Quelqu'un a une idée, dans un autre évangile, un très grand discours de Jésus, très très long. Pour ceux qui ont des Bibles avec les paroles de Jésus en rouge, ben, c'est tout rouge, sur toutes les pages. Quelqu'un, oui, dans Jean. Oui, exactement. Dans Jean, c'est le fameux discours dans la chambre haute, où Jésus va vraiment donner l'exemple du disciple en lavant les pieds. Il va donner des instructions sur la maison du Père en Jean 14. Il va parler de lui-même comme le vrai cep en Jean 15, va donner des instructions, des informations sur le ministère du Saint-Esprit en Jean 16, et il va démontrer ce que c'est qu'un véritable intercesseur en Jean 17. Voilà, donc vous avez le panorama des grands discours de Jésus, et on va s'intéresser donc aujourd'hui, et pendant tout le reste, une bonne partie de l'année, au sermon sur la montagne. Donc trois chapitres dans l'évangile de Matthieu, qui vont nous occuper 11 dimanches, et gloire à Dieu, parce que dans l'Église, il y a de la diversité dans l'enseignement, donc on sera plusieurs à partager cet enseignement. Il y aura David, il y aura Colin, il y aura Philippe la prochaine fois, il y aura Nasser, j'en oublie d'autres, François peut-être, j'ai oublié personne. Enfin voilà, on sera plusieurs donc à se partager ces enseignements, et aujourd'hui j'ai le privilège de pouvoir démarrer avec vous sur le début du sermon sur la montagne. Et je voudrais, avant juste de rentrer dans le vif du sujet, dire quelques mots de contexte sur le sermon sur la montagne. Et c'est très important si on a envie de s'approprier vraiment ces enseignements de Jésus, qui sont des enseignements fondamentaux pour le cœur de chacun des disciples et le cœur de chaque personne, de chaque être humain, puisque ça s'adresse aussi à des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, eh bien, c'est important de comprendre l'intention de Matthieu derrière ce sermon sur la montagne. Parce que si on ne comprend pas le fondement du sermon sur la montagne, on va être un peu comme cet homme dont il est parlé dans Jacques chapitre 1er, qui regarde dans la glace son visage, qui s'en va et qui l'oublie aussitôt comment il est. Donc le but, c'est de ne pas oublier comment on est, mais au contraire, de pouvoir mettre en pratique, et une sœur l'a dit tout à l'heure dans sa prière, comment faire pour que cette parole qui a été prononcée il y a 2000 ans par Jésus vienne s'ensemencer dans notre cœur et vienne nous transformer de l'intérieur. Le but, c'est pas la compréhension intellectuelle de la parole de Dieu, il faut que cette parole se plante dans notre cœur et qu'elle entraîne un changement profond par le Saint-Esprit. C'est l'objectif, donc, de cet enseignement du sermon sur la montagne. Alors, le sermon sur la montagne, il y a lieu où ? Ben, sur une des montagnes de Galilée, qu'on appelle la montagne des Béatitudes. Donc, pour ceux qui ont visité Israël, c'est un lieu qui est apparemment identifié. Et c'est un discours qui a lieu très tôt dans le ministère de Jésus. Tout au début, a priori, il n'a pas encore choisi ses 12. Ça interviendra plus tard. Il enseigne une foule, bien entendu, les 12 le suivent déjà, il les a appelés. Il n'a pas encore fait ce choix des 12. Et c'est le premier, vraiment, des grands discours de Jésus. Et il faut bien comprendre la signification du sermon sur la montagne, parce que c'est l'un des discours, peut-être, qui est le plus mal compris parmi les chrétiens. Et pour bien le comprendre, eh bien, il faut essayer de voir quel est le verset clé de ce discours. Et on va partir de ce verset clé pour voir un petit peu quel est le fondement, quel est le fil rouge qui va nous accompagner pendant ces 11 séances. Donc je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Matthieu chapitre 5 et au verset 20, qui pour moi est vraiment le verset clé de ce sermon sur la montagne. Matthieu chapitre 5, verset 20, on va prendre nos Bibles. Je sais que c'est une habitude qui se perd un peu, parce qu'on affiche toujours tout, et puis comme ça vous écoutez passivement, mais je préfère que vous preniez vos Bibles et que vous alliez voir, parce que c'est toujours bon d'aller voir dans la Bible. Que nous dit Matthieu chapitre 5, verset 20, dans ma version, donc qui est la Colombe. Jésus dit, car je vous le dis, si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Donc, le thème clé du sermon sur la montagne, c'est la vraie justice. La vraie justice, et la vraie justice, retenez bien ça, elle commence dans le cœur. Quel était le problème majeur des pharisiens ? Pourquoi est-ce que Jésus fait référence aux pharisiens, aux scribes et aux enseignants de l'époque ? Eh bien, les pharisiens, nous ont dit Jésus par ailleurs, ils négligeaient la partie la plus importante qui est le caractère intérieur, qui est l'attitude intérieure. C'est-à-dire que les pharisiens étaient concentrés sur l'aspect extérieur. Ils voulaient paraître bien, sous toutes les coutures. Ils avaient des belles robes, ils se montraient dans les places publiques, ils nettoyaient l'extérieur de la coupe, je reprends des termes de Jésus. Donc les pharisiens, ils s'attachaient à l'apparence, ils s'attachaient au rite, ils s'attachaient aux traditions, et ils négligeaient la partie la plus importante qui est l'intérieur. Et le sermon sur la montagne met l'accent sur ce qui se passe dans le cœur de chacun. Il met l'accent sur la différence entre l'extérieur et l'intérieur. Et vous savez que dès l'Ancien Testament, notamment on le voit dans le livre de Samuel, il y a cette fameuse phrase que vous connaissez, lors du choix de David, « L'homme regarde à ce qui frappe les regards, mais l'Éternel regarde au cœur. » Donc ce qui est important, c'est que Jésus met au défi ici ses disciples de voir le monde non pas sous un aspect extérieur, c'est ce que fait le monde, on vit dans un monde de communication, on vit dans un monde d'apparence. Mais Jésus nous invite à voir le monde sous l'angle de Dieu, sous l'angle du roi du royaume des cieux qui est Jésus. Et c'est pour ça que c'est Matthieu qui insiste là-dessus, parce que Matthieu décrit Jésus comme le roi. Et Jésus lui-même, dans sa personne, dans son attitude, dans son mode de vie, va lui-même incarner ces valeurs du royaume des cieux. C'est le cœur. Donc le sermon sur la montagne, c'est finalement la différence entre ce que nous sommes intérieurement et ce que nous faisons extérieurement. Et plus cette différence est grande, et plus nous serons des hypocrites. C'est-à-dire qu'on peut venir avec un grand sourire le dimanche matin et avoir un cœur complètement détruit. Et Jésus, au travers du sermon sur la montagne, au travers de ses enseignements, au travers de choses pratiques de la vie quotidienne, va mettre l'accent sur cette différence. Et c'est pour ça que cet enseignement va être important pour chacun de nous. Parce que lorsque Jésus va nous juger au tribunal de Christ, Jésus va regarder l'intérieur de notre vie. Il ne va pas regarder les apparences qu'on aura montrées à chacun, à notre épouse, à nos enfants, à nos collègues de travail, à nos frères et sœurs dans l'Église. Il va regarder ce qu'il y aura dans notre cœur. Donc nous sommes encouragés à ne pas faire comme les pharisiens qui se lavaient les mains extérieurement, qui nettoyaient soigneusement l'extérieur de la coupe et qui négligeaient l'aspect essentiel qui est l'aspect du cœur. Et vous verrez que la plupart des enseignements ont pour sujet l'hypocrisie, ont pour sujet les motivations impures des pharisiens et des chefs religieux qu'il va dénoncer tout au long de son ministère. Alors, le sermon sur la montagne, il commence par quoi ? Quel est le premier mot du sermon sur la montagne ? Jacqueline, du bout des lèvres, tu l'as dit, mais tu l'as dit. Heureux. Et quel est le dernier mot du sermon sur la montagne ? De mémoire, quel est le dernier mot du sermon sur la montagne ? Alors, on va gagner un peu de temps, ne cherchez pas. C'est le mot « ruine ». C'est l'homme qui a bâti sa maison sur le sable. Ça commence par « heureux », ça finit par « ruine ». C'est intéressant, ça vous rappelle quelque chose dans l'Ancien Testament ? Où est-ce qu'il y a un passage dans l'Ancien Testament qui commence la même et qui finit de la même façon ? Psaume 1er, ça vous dit quelque chose ? Heureux, l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Et ça se termine par « ruine ». De la même façon. Donc il y a une sorte d'écho à ce qui se passe dans l'Ancien Testament. On pourrait citer aussi Moïse, hein, lorsqu'il rentre dans le pays, il y a les bénédictions et les malédictions, hein, mon Garizim, mon Ebal. Voilà, il y a toujours cette opposition dans les proverbes, la sagesse et la folie. Hein. Donc l'accent est mis là-dessus, sur heureux et ruine. Alors c'est intéressant parce que pourquoi est-ce que le sermon sur la montagne commence par les béatitudes ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, on va s'intéresser aux béatitudes. Pourquoi est-ce qu'il commence par les béatitudes ? Alors, tout simplement, parce que Jésus est un très bon vendeur. Toute proportion gardée, bien entendu. Pour ceux qui ont fait de la vente, et quelques personnes qui ont fait de la vente, la joie Émilie qui est assise, mais pour ceux qui ont fait de la vente, le béaba de la vente, c'est vraiment d'exposer les bénéfices. Hein, Guy, tu ne vas pas me détromper ? On vend les bénéfices. On démontre les bénéfices. Donc Jésus va commencer par nous parler de bénéfices. Qu'est-ce qu'on a à gagner à écouter tout ça ? Le bénéfice, c'est d'être heureux. On parle des bénéfices, mais plus tard, on va parler des sacrifices. Parce qu'en termes de vente, il va falloir acheter un produit, il va falloir payer, il va falloir s'investir. Donc Jésus va parler de bénéfices, et c'est pour ça qu'il commence par les béatitudes. Et les béatitudes vont littéralement lancer ce sermon sur la montagne. Parce que le but, finalement, le but de chaque homme, et là, je vous ferai grâce de toutes les études sociologiques, le but de chaque personne sur Terre, c'est d'être heureux. On vient d'entendre des vœux, on est dans la période des vœux. Qu'est-ce que vous entendez le plus souvent ? Je te souhaite tous mes vœux de bonheur. Les gens veulent être heureux. Il y a une recherche absolue philosophique du bonheur qui est une priorité de nos contemporains. Mais quand on analyse nos contemporains, finalement, ils ont un petit peu de mal à y parvenir durablement. Il y a des petits moments de bonheur fugaces. Là, si Armel Lecléache arrive en tête du Vendée Globe, eh bien, la bouteille de champagne va sauter. Il aura un moment de bonheur intense, ça va durer quelques secondes, Et après, il va rentrer chez lui, il va se raser, et la vie quotidienne va repartir, et l'extase du bonheur va tomber. Parce que beaucoup de gens pensent que le bonheur, il est dans la réalisation, dans le matérialisme et dans la possession. Et c'est ce qui a fait dire à un de nos écrivains célèbres, La Rochefoucauld, avant de désirer une chose, il faut examiner réellement le bonheur de celui qui la possède. Et si on l'examine bien, on s'aperçoit que le bonheur, il n'est pas dans toutes ces choses, dans le matérialisme, dans la possession, etc. Il est dans autre chose, il faut aller chercher autre chose. Je vous proposerai plutôt cette citation de Corrie ten Boom, que vous connaissez la plupart d'entre vous, qui est une chrétienne convaincue, qui est une rescapée des camps nazis, et qui dit que finalement, ce n'est pas l'environnement dans lequel on se place qui va créer le bonheur. C'est plutôt quelque chose que nous construisons, c'est-à-dire c'est une attitude intérieure. C'est une attitude de cœur, finalement. Et on revient encore à l'enseignement du sermon sur la montagne. C'est le cœur qui est concerné, et c'est le cœur qui va faire la différence, notre attitude intérieure. Alors, vous savez, l'année dernière, on a étudié dans Jean chapitre 5 la guérison du paralytique à la piscine de Bethesda. Et vous vous souvenez, dans cet enseignement, Jésus pose une question bizarre. À un homme qui est là, couché, qui est paralysé depuis 38 ans, il lui pose une question, mais complètement dingue. Qu'est-ce qu'il lui dit ? Veux-tu être guéri ? Veux-tu être guéri ? C'est étrange comme question. Et c'est pour ça qu'il faut toujours aller chercher derrière. Quelle est l'intention de Jésus ? C'est une question à tiroir un peu. Ce que posait Jésus comme question à cet homme, c'est au fond, est-ce que tu as envie d'être guéri totalement ? Pas seulement physiquement, parce que physiquement, tu vas être guéri, tu vas marcher quelques années, après tu retournes à la tombe. C'est est-ce que tu veux être guéri dans tout ton être ? Est-ce que tu veux être guéri intérieurement de ton péché ? C'est ça la question de Jésus. Alors aujourd'hui, je voudrais vous poser la même question en début d'année. Est-ce que vous voulez être heureux ? Est-ce que vous voulez être durablement heureux ? Pas heureux dans le sens du monde, parce que s'il faut que vous fassiez tous le Vendée Globe en 65 ou 70 jours, il y en a très peu d'entre nous qui vont y arriver. Et encore, on a dit que le bonheur était fugace. Eh bien, veux-tu être heureux aujourd'hui ? On va essayer dans cet enseignement, pendant ces 11 séances qui vont nous emmener jusqu'au mois de juillet, de voir quelles sont les clés du bonheur. Et je vous le dis tout de suite, les clés du bonheur, c'est une attitude intérieure, un travail intérieur de notre cœur qui ne peut pas être réalisé par nos propres forces. Et c'est ça la clé du sermon sur la montagne. C'est que si le sermon sur la montagne se résume pour chacun de nous en une succession de règles, comme la loi. La loi, c'était des règles, et on sait que personne ne peut suivre toute la loi. C'est ce que nous dit la Bible. Si on pense que le sermon sur la montagne est une succession de règles, c'est-à-dire Jésus qui dit « Vous avez appris que, mais moi je vous dis que », si on transforme les règles de l'Ancien Testament en règles du Nouveau Testament, on a tout faux, parce qu'on se replace sur la loi, on se replace sous les règles, on se replace sous les apparences extérieures, de faire bien, de faire ci et de faire ça. Par contre, si on prend le sermon sur la montagne comme quelque chose de plus profond qui va transformer notre cœur cette année, alors là, ça sera différent. Et Jésus est prêt, parce qu'il habite en chacun des chrétiens qui lui ont fait confiance, Jésus est prêt à transformer notre cœur. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. On va lire les quatre premières béatitudes. Je ne sais pas si je vais arriver jusqu'au bout. Donc Matthieu chapitre 5, verset 1. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il ouvrit la bouche et il se mit à les enseigner. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Alors, d'autres Bibles vont dire heureux les affligés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. C'est une lecture très courte, mais il y a d'énormes implications derrière. Donc on va essayer de décrypter un petit peu tout ça. Donc aujourd'hui, on va traiter les quatre premières béatitudes. Philippe traitera la semaine prochaine ou dans 15 jours les quatre suivantes. Puis ensuite, on continuera le sermon sur la montagne. Je vais juste faire une petite introduction sur les béatitudes. Donc les béatitudes, il y en a 8. Ça constitue un tout. Ce n'est pas juste un truc qu'on va prendre comme ça au hasard. C'est un peu comme le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, ce n'est pas les fruits de l'esprit, c'est le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, il comprend un bouquet. Ben, les béatitudes, c'est un peu tout. On ne peut pas se dire, je vais en prendre une et pas une autre. C'est une étape, une progression sur 8 aspects. Ce n'est pas quelques options. Alors, ces béatitudes, je vous les propose comme 8 étapes d'ascension spirituelle. Et il y a plusieurs caractéristiques qu'il faut bien comprendre. La première des caractéristiques, c'est que ces béatitudes représentent des valeurs éternelles du royaume. Hein? On sait que Matthieu décrit la venue d'un roi, donc un roi, c'est un royaume, c'est le royaume des cieux, et c'est opposé aux valeurs du monde. Donc les valeurs du monde vont nous entraîner dans une direction, et il va falloir ramer à contre-courant pour renverser la tendance. Ce sont des valeurs long terme. Le monde nous propose des valeurs à court terme. Les béatitudes nous proposent des valeurs à long terme. C'est gentil, je dois avoir mon verre là, merci. C'est un signal que je commence à tousser beaucoup. Merci beaucoup, Reb, c'est vraiment super. T'es gentil comme tout. Donc, ce sont des valeurs à long terme, et ce sont des valeurs qui ont un coût. Parce que lorsque on rame à contre-courant du monde, il y a un coup, il y a un combat spirituel contre notre propre nature, contre l'esprit du monde. Il y a un coup de suivre Jésus. Je ne vais pas insister là-dessus, mais l'apôtre Paul en parle largement. Quand il parle de sa vie, quand il parle de ses souffrances, quand il dit « ce qui était pour moi un gain, je les ai considérés comme une perte », il y a un coup à suivre Jésus. Donc ce sont des valeurs éternelles qui sont opposées aux valeurs ici-bas. Ensuite, ces béatitudes... Je suis planté. Si. Ces béatitudes représentent, ce que j'ai dit tout à l'heure, un état intérieur. Ce n'est pas un code de conduite. Ce n'est pas une nouvelle loi. Ce n'est pas de nouvelles règles. C'est un état intérieur. C'est ce que les anglo-saxons appellent le character, avec un H. Vous savez, nous, on parle de caractère. On dit il a bon caractère, il n'a pas bon caractère. Ça ne veut rien dire parce que personne n'a bon ou mauvais caractère. Chacun a un caractère. Mais le caractère des anglo-saxons, c'est vraiment le caractère spirituel, c'est l'état intérieur, c'est l'attitude, c'est la manière dont on va agir tous les jours avant d'être un code de conduite. Parce que la loi a été donnée par Moïse, et Nasser nous a parlé tout à l'heure, il nous a parlé de la loi. La loi, c'est un cadre. Voilà. C'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais le cadre de la loi, c'est un cadre dans lequel la grâce va agir, on en a parlé aujourd'hui. Et le but, c'est de laisser la grâce agir en nous pour transformer notre attitude intérieure. Ce n'est pas une foi qui est superficielle, c'est une foi profonde qui vient du cœur. Et les béatitudes nous parlent du caractère et des principes qui régissent le royaume de Dieu. Vous savez, il y a plein de principes moraux de nos jours. On nous parle, par exemple, des accords Toltec, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, les 5 accords Toltec, qui sont justes. On nous parle du bouddhisme, on nous parle de l'hindouisme, et dans chacune des religions, il y a des normes morales qui sont bonnes. Mais la différence, c'est que le disciple, il est transformé intérieurement par le Saint-Esprit. Et c'est ça qui fait la différence. Parce qu'on ne peut pas observer des règles et des valeurs morales. Notre état intérieur de pécheur nous empêche de faire ça pleinement. Il faut se laisser transformer par l'intérieur. Et c'est une transformation qui nous vient du cœur. Le chrétien est un ambassadeur. Je reprends, pour ceux qui ont connu notre frère Trifon, il avait un célèbre message qui disait « Le chrétien ambassadeur du royaume de Dieu dans ce monde ». Voilà, donc ces béatitudes vont nous parler de ça. Et ces béatitudes vont nous dire comment être heureux. Le mot heureux, tout simplement, ça vient du latin beatus, béatitude, heureux. Et littéralement, c'est le mot béni. C'est-à-dire, celui qui est heureux, c'est celui qui est béni de Dieu. Et on retrouve cette notion dans l'Ancien Testament. Comment faire pour être béni? Par exemple, dans le psaume 1er, dont on a parlé tout à l'heure, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, C'est littéralement l'interjection « Combien est heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants ?» etc., etc. Donc, les béatitudes vont nous présenter celui qui est béni par Dieu, et est béni par Dieu celui qui a son cœur transformé, on va voir comment. Et chaque béatitude va nous donner également le bénéfice. Parce que le bénéfice, c'est ce qui va nous faire bouger. Sinon, ça reste de la théorie. Alors, ce que je vous propose pour l'étude des béatitudes, je vous propose d'adopter un plan un peu particulier, un plan qui va peut-être nous aider à mieux comprendre la portée spirituelle de ces béatitudes. Donc, on va voir successivement 5 choses. Premièrement, la signification spirituelle de la béatitude. C'est le petit sigle ici, là. Il y aura des petits codes, ça vous aidera à suivre. Ensuite, on va essayer de s'intéresser à la faiblesse chez nous. À quoi est-ce que la béatitude qui est prononcée par Jésus fait appel à une faiblesse de notre chair auquel il faut faire attention? La faiblesse, c'est l'attrait qu'on peut avoir par le monde. C'est comment le monde va essayer de nous tenter, de nous défier pour nous faire dévier de cette béatitude et cette transformation intérieure du cœur. Et puis on va voir en quoi cette béatitude a été pleinement accomplie prophétiquement par Jésus. C'est-à-dire que cette béatitude a été annoncée dans l'Ancien Testament et Jésus l'a pleinement accomplie. Ensuite, je vais essayer de vous donner quelques clés de progrès, c'est-à-dire quelques versets, quelques pistes pour vraiment vivre cette béatitude. Et puis on va rappeler le bénéfice. Voilà le plan qu'on va suivre, hein, un plan en 5 parties pour chaque béatitude, pour essayer de clarifier les choses. C'est OK pour vous? Allez, on avance. La première béatitude, heureux les pauvres en esprit. Alors, selon les versions, dans les versions modernes, on utilise le mot plutôt ceux qui ont conscience de leur pauvreté spirituelle. Alors ici, on a vraiment la notion, c'est pas du tout le... Dans les vieilles versions, la seconde 1910, c'était, je ne me souviens plus comment c'était dit, mais c'était du style heureux les simplets, quoi. C'est pas du tout ça. C'est plutôt, ici, c'est celui qui se sent un mendiant spirituel, celui qui n'a rien, celui qui se sent démuni, celui qui se sent sans aucune aide, celui qui vient nu, finalement, nu devant le Seigneur. Le chant « tel que je suis, sans rien à moi », sinon ton sang versé pour moi. C'est-à-dire que c'est celui qui se présente devant Dieu, devant Jésus, sans rien, en ayant conscience qu'il n'est rien du tout. Le mot esprit, c'est le mot pneuma, c'est le mot souffle, c'est le souffle qui transforme. C'est-à-dire que pour être transformé par la parole de Dieu, pour être transformé par la grâce de Dieu, il faut arriver sans rien. Il faut arriver comme un mendiant. C'est celui qui reconnaît que sur le plan spirituel, sur le plan de l'Esprit de Dieu, sur le plan de la conformité à ce que Dieu veut, ils ne valent pas tripette. C'est ça. Alors ça peut être paradoxal, parce que d'un côté la Bible nous dit que Dieu veut nous enrichir spirituellement, et il nous dit qu'il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Ben, c'est pas incompatible, parce que pour recevoir cette bénédiction spirituelle, il faut se sentir misérable. Il faut se sentir nu. Il faut se sentir démuni pour que Dieu puisse pleinement agir. Et moi, je me pose souvent la question, je suis bien orgueilleux parfois. Je me dis que spirituellement, je suis quelqu'un. Et quand je commence à me dire ça, je ne suis pas sur une bonne voie. Et heureusement que Dieu me reprend, parce que je vis des circonstances qui me montrent que je ne suis pas grand-chose et que je suis toujours obligé de revenir, finalement, à la croix et à la grâce de Dieu. Parce que, et là on peut se poser la question aussi, pourquoi est-ce que cette béatitude est citée en premier? Parce que quelle est la faiblesse de la chair qui est concernée par ça? Qui me concerne moi, peut-être vous, c'est quoi? Ouais, l'orgueil, c'est exactement ça. C'est l'orgueil et, en deuxième lieu, c'est le désir d'indépendance. C'est exactement le premier péché de l'humanité. C'est l'orgueil et le désir d'être indépendant. Vous serez comme des dieux. C'est marcher tout seul. Je me débrouille tout seul. je suis libre. Je n'ai pas besoin de Dieu. Je suis indépendant. Alors que la vraie liberté spirituelle, c'est d'être dépendant d'un Dieu qui agit pour notre bien. Donc le pauvre en esprit, c'est celui qui a compris qu'il ne peut pas avancer dans la vie chrétienne par ses propres forces et qu'il doit marcher avec Jésus au quotidien. Et Jésus dira, prenez mon joug sur vous. Vous savez ce que c'est qu'un joug? On mettait ça sur un attelage de bœuf pour qu'ils puissent marcher tous les deux. Donc le joug pour un bœuf, c'était dur parce qu'il fallait tirer la charrue. On mettait deux bœufs, trois bœufs, quatre bœufs. On les mettait sous une espèce de joug sur leur cou. Et Jésus dit, il est comment son joug à lui? Il est doux et léger. Voilà. Donc, celui, le pauvre en esprit, qui est conscient de sa pauvreté spirituelle, c'est celui qui a compris qu'il ne peut avancer qu'en marchant avec Jésus. Et non pas, comme dit le monde, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. C'est ce que Satan nous tente. Il nous dit tous les jours, tu peux te débrouiller par toi-même, il ne faut pas embêter Dieu, Jésus il est occupé par les grandes causes, il ne peut pas penser à toi, de toute façon tu ne vaux pas grand-chose, regarde où tu en es, ta vie elle est ça, elle est ça, elle est ça. Donc Satan nous tente comme ça, et nous, eh bien, on tombe dans le panneau. Et on se dit, eh bien, je vais me débrouiller moi-même. Et puis ça fait du bien de temps en temps de se dire qu'on est quelqu'un. Mais en fait, on est quelqu'un, tout simplement, parce qu'on marche tous les jours avec Jésus, sous le même joug. Alors, dans l'Ancien Testament, quelle est la référence? Alors, je vous ai cité donc le verset de la chute. Il y a deux passages qui sont importants pour ceux qui prennent des notes. On n'a pas le temps de le voir, mais Ésaïe 55,15 nous dit « Car ainsi parle le Très-Haut dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés, dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés et de ranimer les cœurs contrits. » Donc la référence dans l'Ancien Testament nous rappelle que Dieu est le Très-Haut. Et Ésaïe nous dit également que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Il y a un écart entre Dieu et nous. Et ça nous rappelle que, voilà, nous on est sur terre, on est petit, et que Dieu est grand. Et quand on est comme ça, on est conscient de sa pauvreté spirituelle, on se place sous le joug, sous la dépendance de Dieu, et à ce moment-là, on peut réellement avancer dans la vie chrétienne. Et le Saint-Esprit qui nous est donné à la conversion, eh bien ce Saint-Esprit va nous aider à marcher. Car vos pensées ne sont pas, mes pensées ne sont pas vos pensées. Alors, quelles sont les clés, finalement, pour avancer dans cette conscience de sa misère spirituelle? Bon, on va lire Jacques chapitre 4, versets 7 à 10. Donc, je vous invite à tourner vos Bibles, Jacques chapitre 4, versets 7 à 10. Donc au verset 6, il nous est dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. » Dès la première béatitude, le diable va nous tenter sur notre orgueil et notre désir d'indépendance. Donc il est dit « Résistez au diable, il fuira loin de vous. » Comment résister? Comment Jésus a fait pour résister au diable? La parole de Dieu. C'est toujours, on revient toujours à la parole de Dieu. Il y en a qui suivent, merci Gérard. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs. Nettoyez vos cœurs. Encore une fois, nettoyez vos cœurs, l'intérieur. Âme partagée. Reconnaissez votre misère, menez deuil, pleurez. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. C'est la notion d'humilité. Jean 15, 5 nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà, donc c'est se placer, Matthieu 11, versets 29 à 30, se placer sous le joug de Jésus, imiter Jésus, se mettre à sa cadence, marcher à son rythme. C'est vraiment le programme de cette première béatitude. Et le bénéfice de la béatitude, eh bien, c'est que le royaume des cieux est à nous. Et là, c'est intéressant parce que c'est la seule béatitude dont le bénéfice est au présent. On verra plus tard que les autres béatitudes, c'est du futur, c'est-à-dire c'est le royaume à venir. Mais ici, ceux qui sont conscients de leur misère spirituelle, qui sont conscients aujourd'hui qu'ils ne sont rien devant Dieu, eh bien, ils deviennent des citoyens du royaume. Et pourquoi Jésus a la légitimité de dire ça? Parce qu'il est le roi de ce royaume. Et c'est le roi qui nous dit à chacun de nous, voilà, vous êtes citoyens du royaume des cieux, si vous êtes pauvres en esprit. Et voyez le contraste avec Matthieu 5, 20, ce qui est dit des pharisiens, si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens et des scribes, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Voyez. Donc si on veut rentrer avec notre propre justice, et ça s'adresse à celui, peut-être ce matin, qui ne connaît pas le Seigneur, qui a entendu parler de Jésus, qui suit le culte depuis quelques années, peut-être, et qui n'a pas réellement compris qu'il est pauvre spirituellement, qu'il ne vaut rien devant Dieu, qu'il est pécheur, qu'il est éternellement condamné. Eh bien, celui qui a compris ça, il peut juste venir à Jésus, lui demander pardon pour ses péchés, et il reçoit la citoyenneté du royaume des cieux. Voilà la première béatitude. On est mal parti en termes de timing. On va passer à la deuxième béatitude. Ce sont les affligés. Alors, selon les versions, il y a des gens qui ont d'autres versions. Heureux ceux qui pleurent, heureux les affligés, car ils seront consolés. Alors, là encore, littéralement, les affligés, c'est mener deuil. C'est ceux qui déplorent, ceux qui se lamentent. C'est la notion de se lamenter. Alors, on peut se lamenter à plusieurs niveaux. Par exemple, en Apocalypse 18, 11, lorsque la grande Babylone tombe, les marchands de la terre pleurent et se lamentent parce qu'il n'y a plus personne pour acheter leur cargaison. C'est une façon de se lamenter. Mais on peut se lamenter aussi parce qu'on a compris notre pauvreté spirituelle et on se lamente sur notre incapacité à aller plus loin. Et là, je vous encourage, si vous êtes là, ou si vous avez été là, ou si vous revenez encore à la croix de Jésus, en regardant votre misère, en regardant votre incapacité à avancer, eh bien, ceux qui se lamentent, ceux qui sont affligés sur leur état spirituel et leur incapacité à avancer, la bonne nouvelle, c'est que Jésus va vous emmener plus loin. Jésus veut nous emmener plus loin, parce qu'on est dans cette attitude d'humilité. Et on est heureux, encore une fois, heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui sont affligés, heureux que ceux qui se lamentent. Quelle est la faiblesse qui est concernée? La faiblesse, c'est la recherche du bonheur, c'est l'hédonisme, c'est la recherche du plaisir, c'est éviter la souffrance. Aujourd'hui, on est dans un monde qui veut éviter la souffrance. Je ne dis pas que si on peut l'éviter, il ne faut pas le faire, mais si on le recherche à tout prix, on va tomber à côté. Et Satan va nous susurrer à l'oreille, mais t'as le droit de penser à toi, t'as le droit d'être heureux, pourquoi tu souffres et l'autre ne souffre pas, tu devrais rechercher ça. Vous voyez, c'est sans arrêt notre chair qui nous rappelle ça. Et là encore une fois, la Bible nous dit, et ça c'est l'aspect prophétique, Ésaïe 61, 1, 2, Nasser l'a lu tout à l'heure, c'est le discours que Jésus reprend dans la synagogue de Nazareth, « L'Esprit du Seigneur est sur moi pour consoler ceux qui sont affligés. » Donc ce n'est pas par nos propres forces qu'on va éviter la souffrance, qu'on va jouir du bonheur, mais c'est le Seigneur qui sera là pour nous consoler. Parce que parfois la souffrance, elle a un but pédagogique. Elle nous amène justement à nous interroger sur notre misère spirituelle. Quelles sont les clés pour avancer sur cette béatitude? Eh bien, les clés, c'est se souvenir que la souffrance n'est pas forcément quelque chose de négatif. Que pleurer n'est pas une faiblesse. On apprend aux enfants à ne pas pleurer. Ce n'est pas bon de montrer ses sentiments, il faut que tu sois fort, que tu sois costaud. Ça, c'est l'esprit du monde. Mais parfois, pleurer, c'est bien. Pleurer, c'est le démarrage de quelque chose de nouveau. Être affligé par son péché et ne pas s'en sortir, c'est le démarrage de quelque chose de nouveau. C'est le démarrage de la repentance. Si je ne pleure pas sur mon péché, je ne peux pas me repentir. Je suis dans l'illusion du royaume de Dieu, je suis dans l'extérieur. Je professe Jésus, je chante des cantiques, je lis la Bible, je la connais intellectuellement, mais mon cœur n'est pas transformé. Et pleurer, c'est aussi une émotion qui libère. Parce qu'il y a une promesse et une espérance que l'Esprit du Seigneur est sur Jésus pour consoler ceux qui sont dans le deuil, ceux qui pleurent. Et l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 7, 10, nous dit que la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Je vous ai parlé de la tristesse des marchands de la terre dans l'Apocalypse, ça c'est la tristesse du monde. Ils ont perdu leur richesse. Oh, quelle catastrophe! Ça conduit à la mort, mais la tristesse selon Dieu conduit à la repentance. Alors peut-être ce matin, quelqu'un est dans la tristesse, est affligé par le poids de son péché. Il est affligé par sa misère, que tu sois chrétien depuis longtemps ou pas, peut-être tu es affligé par ton incapacité à avancer. Eh bien, sache qu'aujourd'hui, tu peux venir à Jésus et Jésus peut prendre cette affliction et la transformer en joie parce qu'il a été oint, nous a lu Nasser tout à l'heure, pour faire cela. Quel est le bénéfice? Eh bien, les affligés, ceux qui pleurent, seront consolés. Le mot « consoler » ici, c'est le mot qu'on retrouve dans l'évangile de Jean quand il est parlé du Saint-Esprit. C'est le paraclet. C'est le paraclet, on est consolé. Et je voudrais qu'on lise ensemble 2 Corinthiens 1, verset 4. 2 Corinthiens 1, 4. C'est ce que j'ai appelé la chaîne du réconfort. Et j'aime beaucoup ce texte parce que chaque fois que je suis affligé, alors on peut être affligé par son péché, mais on peut être affligé par des circonstances aussi. Ça marche dans les deux sens. Lorsqu'on est affligé par des circonstances, Jésus est là pour nous consoler. Et il va nous utiliser aussi pour consoler d'autres personnes. Vous voyez, à partir du verset 3, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père compatissant, le Dieu de toute consolation. » Qu'est-ce que c'est encourageant de savoir que Dieu est le Dieu de toute consolation. Ce n'est pas juste une consolation, c'est toute consolation. « Lui qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans toutes sortes d'afflictions. » C'est ce que j'appelle la chaîne du réconfort, c'est-à-dire qu'on est nous-mêmes réconfortés par la parole de Dieu pour réconforter nos frères et nos sœurs qui sont dans l'affliction. Et c'est ça que Dieu attend de nous. Et le verset d'Apocalypse 21 nous dit aussi que dans le royaume des cieux futurs, Dieu va habiter avec eux et il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Donc ceux qui pleurent aujourd'hui, ceux qui sont affligés, ceux qui se lamentent, soit sur leur péché, soit sur leur situation, soit sur une difficulté qu'ils traversent, une maladie, un deuil, eh bien Dieu un jour habitera avec eux et il essuiera toutes larmes de leurs yeux. C'est vraiment formidable. Troisième béatitude, les doux. Heureux les doux. Alors, c'est quoi les doux? Ben, les doux, ça rejoint un petit peu l'humilité. Les doux, c'est l'un des caractères du fruit de l'esprit, la douceur. Et encore une fois, c'est un combat spirituel contre notre propre nature et contre l'esprit du monde. Parce que comment faire pour être doux alors que le monde en face de nous est dur envers nous? Pas facile, hein? Tous les jours, moi, je me bats contre cela, parce que j'ai envie d'être doux. Au fond de moi, Jésus vit, il a envie d'exprimer cette douceur. La Bible nous dit « Je suis doux et humble de cœur » quand Jésus parle. Et pourtant, le monde est dur, et en face de moi, il y a un combat permanent tous les jours. Vous pouvez demander à Noémie qui est là, c'est vraiment un combat tous les jours. Alors, la douceur, c'est littéralement accepter ce que Dieu fait dans ma vie sans rechigner. Accepter ce que Dieu fait avec moi sans rechigner. Dans l'Ancien Testament, les doux, c'est ceux qui comptent sur Dieu plutôt que sur leur propre force pour être protégés de l'injustice. Par exemple, vous avez dans l'Ancien Testament un bel exemple, c'est David lorsqu'il est confronté à Nabal. Vous connaissez ce texte? David qui est confronté à Nabal. David qui était un homme selon le cœur de Dieu, à un moment donné, quand il voit ce que Nabal lui fait, il a envie juste de lui couper la tête. Et Dieu est sage parce qu'il envoie la femme de Nabal pour le... David, cool, souffle. Et c'est exactement la douceur qu'on doit avoir, que David a eue envers Nabal, grâce à l'intervention d'Abigaïl, la douceur qu'on peut avoir, nous, envers les méchants, c'est de savoir que Dieu permet les blessures pour former le caractère de ceux qu'il a choisis. Et par cette expérience de David, il a montré à David qu'un jour, que c'est lui qui rend la justice. C'est ça la douceur. La douceur, c'est que Dieu délivrera en temps voulu. Soit tout de suite, soit plus tard. Pour David, ça a été rapide. Nabal, il a fait une crise cardiaque dans les 48 heures. Et David, il a récupéré sa femme en plus. Tout bénef. Enfin, je ne sais pas. A priori, tout bénef. Après, je ne sais pas. Voilà, la douceur, c'est vraiment le caractère de Jésus. Je n'ai pas le temps de m'étendre là-dessus. Mais le monde va vous dire que la douceur, c'est une faiblesse. Que dans le monde, il faut être fort. Il faut savoir se défendre. Mais la douceur, ce n'est pas une faiblesse. C'est tout simplement la conformité au caractère de Jésus. Et ce que ça va chercher chez nous, c'est le désir de s'affirmer, c'est le désir de paraître fort, c'est le désir de tout contrôler, c'est le Dieu du pouvoir et de la puissance. Il y a un Dieu qui est challengé là, le Dieu du pouvoir et de la puissance, contrôler notre environnement pour assurer notre sécurité. Je voudrais qu'on lise dans l'Ancien Testament le psaume 37. Psaume 37, versets 5 à 11, parce que je crois que c'est un psaume qui parle justement de douceur, qui parle d'attitude dans la douceur, et qui résume peut-être l'ensemble des béatitudes. Il y a plein de références dans l'Ancien Testament, mais ce psaume 37, il est vraiment très très inspirant pour celui qui veut vivre la vraie béatitude, les vraies béatitudes. Alors on va lire à partir du verset 5. Remets ton sort à l'Éternel. Imaginez, vous êtes mis au défi dans votre douceur. Vous avez un méchant en face de vous et il vous fait du mal. Voilà ce que nous dit le psaume. Remets ton sort à l'Éternel. Confie-toi en lui et c'est lui qui agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et attends-toi à lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. Contre l'homme qui accomplit de mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ça serait mal faire, car ceux qui font le mal seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Voilà, il y a toute une série d'instructions qui nous est donnée de garder le silence, de ne pas nous irriter, parce que Dieu veille, parce qu'on n'a pas besoin d'adopter le Dieu du pouvoir et de la puissance, parce que Jésus a dit aussi dans Matthieu 11, versets 27, 28, 29 et 30, qu'on a lu tout à l'heure, que tout lui a été remis par son Père, qu'il est doux et humble de cœur, qu'il faut prendre le joug de Jésus sur nous, recevoir ses instructions. C'est ça la douceur, recevoir les instructions de Jésus. Et le bénéfice, c'est de posséder le pays. C'est quoi posséder le pays? Eh bien, c'est la partie matérielle du royaume. Nous savons que nous héritons d'un royaume spirituel. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Mais un jour, nous hériterons du royaume. Il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Tous ceux qui auront été avec Jésus régneront avec lui. Ils auront des parties du royaume physiquement. Ce n'est pas juste une espérance. C'est physiquement, il y aura une partie du royaume. C'est ce royaume messianique et les humbles posséderont le pays, nous est-il dit. Voilà, j'ai une quatrième bénédiction à traiter, mais le temps passe. Philippe, est-ce que ça t'ennuie de prendre cinq béatitudes la prochaine fois, d'en prendre une de plus? Parce que je ne voudrais pas retenir, on a déjà dépassé le temps. Qu'est-ce qu'on fait? Je suis pris par le temps, mais si vous avez 5 minutes de patience, on peut faire la dernière béatitude. Ça vous va? Allez, on me prend. Super. Alors la quatrième béatitude, heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Alors, ceux qui ont faim et soif de justice, c'est une béatitude qui me parle beaucoup, parce que j'ai un caractère à avoir faim et soif de justice. Et malheureusement, dans ce monde, eh bien, ce caractère est mis à mal parce qu'il y a beaucoup d'injustices autour de moi. Et c'est très difficile pour moi. Donc je vous en parle, mais avec beaucoup d'humilité. Ceux qui ont faim et soif de justice, c'est, encore une fois, comme dans toute béatitude, c'est un double tiroir. C'est-à-dire, il y a la justice devant Dieu. Et il y a la justice par rapport aux circonstances que l'on vit. Alors la justice devant Dieu, c'est très simple, la Bible nous en parle, il n'y a pas de juste devant Dieu. Donc quelle est la condition acceptable devant Dieu? Qui est-ce qui est juste devant Dieu? La réponse de la Bible, c'est personne. Personne n'est juste devant Dieu. Et c'est pour ça que toutes les béatitudes qu'on a vues prennent leur signification derrière. Le fait d'être humble, le fait de pleurer sur ses péchés, le fait d'avoir une douceur et non pas un esprit revendicatif, eh bien c'est tout simplement parce que ce qu'on a reçu, et Nasser nous l'a dit, c'est par grâce. Ça reprend tout ce qu'on a vu sur la misère. On ne peut être juste devant Dieu qu'en s'abaissant, qu'en s'humiliant, qu'en dépendant de sa grâce. Et celui qui est juste, c'est celui qui est pleinement conscient de son injustice, pleinement conscient de son incapacité à faire le bien devant Dieu. Et c'est là qu'on est défié tous les jours, parce qu'on a l'impression qu'en venant au culte, on est quelqu'un de bien. On a l'impression qu'en lisant la Bible, on est quelqu'un de bien. On a l'impression qu'en venant aux études bibliques, on est quelqu'un de bien. Mais ce n'est pas vrai. Devant Dieu, on ne vaut rien. Et quand on est dans cette attitude, Dieu nous élève, il fait de nous des rois. Mais avant d'être élevé pour être roi, il faut d'abord faire comme Jésus, s'abaisser plus bas que terre, considérer les intérêts des autres avant de considérer les siens. C'est ça, finalement, être juste. Ce ne sont pas les justes, leur propre justice, qui sont récompensés. Mais c'est ceux qui aspirent à l'être et qui pleurent parce qu'ils n'arrivent pas à être justes. Ceux-là sont justifiés. Je vous renvoie à la parabole du pharisien et du publicain. Et puis, il y a ce deuxième volet de cette béatitude qui est la notion de justice, la notion d'intégrité, d'agir au quotidien dans son travail, avec sa famille, avec ses amis, d'agir de manière juste, de la manière la plus juste possible comme Dieu aurait agi. En sachant qu'on n'est pas Dieu, qu'on peut se tromper. Et là encore on est. Quand on se trompe, on peut demander pardon. Et vous voyez, la plus grande faiblesse ici, c'est se rassasier soi-même de justice pour satisfaire un besoin immédiat. C'est-à-dire, c'est à la fois vouloir gagner le ciel par ses propres œuvres, mais aussi ne pas se préoccuper de l'injustice autour de nous, rester dans son confort. C'est se rappeler aussi que Dieu désire quelque chose de meilleur pour nous. Alors là aussi, la référence dans l'Ancien Testament, eh bien, c'est Ésaïe qui nous le dit. Il y a beaucoup de références dans Ésaïe. Vous savez qu'Ésaïe, c'est vraiment l'évangéliste de l'Ancien Testament, c'est lui qui annonce le royaume de Dieu, peut-être le plus souvent, eh bien, nous parle du Messie qui jugera, lui, les pauvres avec justice. Donc quand on a une situation à juger, quand on veut se venger, quand on a quelque chose, quand on est humilié, eh bien, sachant que Dieu jugera les pauvres avec justice et que le serviteur de l'Éternel ne brisera pas le roseau cassé, il établira le droit sur la terre. Quelques clés pour cette béatitude. Eh bien, ça va résumer encore les quatre béatitudes qu'on a vues ce matin. C'est que la transformation intérieure dont je vous ai parlé, dont j'ai eu vraiment besoin, c'est qu'il n'y a que le Saint-Esprit, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut changer notre cœur. Ce n'est pas en essayant de faire des œuvres. C'est en acceptant de tout perdre, c'est en acceptant de n'être rien, que finalement, le Saint-Esprit va nous transformer de l'intérieur. Le caractère de Jésus ne peut pas être construit en nous sans l'aide du Saint-Esprit. Et c'est une prière que je fais souvent. Seigneur, change mon cœur. J'ai besoin que tu changes mon cœur. Parce que derrière, il y a une promesse, et c'est la dernière. Nous serons rassasiés. Nous serons rassasiés à la fois par la justification, c'est-à-dire que Dieu va nous voir non plus misérables, mais au travers des lunettes de Jésus, c'est-à-dire comme un fils et une fille, et c'est comme ça que Dieu nous voit déjà aujourd'hui, mais nous serons rassasiés parce qu'un jour justice sera rendue. Un jour les hommes passeront soit devant le tribunal de Christ, soit devant le grand trône blanc, pour ceux qui ne connaissent pas Jésus et qui ne l'ont pas accepté, et là toute la justice va être rendue. Donc ceux qui ont faim et soif de justice, là seront rassasiés. Et là, vous avez vu que les trois dernières béatitudes, ce sont des futurs. Alors en conclusion, 8 étapes d'une ascension spirituelle. Je vous ai donné 4 clés de progrès. C'est rejeter un certain nombre de dieux, la prospérité, le plaisir, le pouvoir, et comprendre que Dieu veut notre bien. Si Dieu permet des circonstances dans notre vie, c'est pour notre bien. C'est que derrière, il y a une intention. Et son intention, c'est de nous bénir, c'est de nous donner la recette du bonheur, qui n'est pas de rechercher le bonheur à tout prix, mais de se soumettre à la loi de Dieu pour obtenir en fin de compte le bonheur. Et ces béatitudes finalement s'imbriquent. Elles s'imbriquent les unes dans les autres. C'est une progression, une suite. Philippe, tu nous emmèneras dans les 4 dernières la prochaine fois. En nous souvenant que Dieu veut développer notre caractère et que seul Jésus peut transformer notre caractère. Alors je vous mets au défi, avant de partir pour cette journée, pour cette semaine, de dire laquelle de ces béatitudes me touche le plus. Est-ce que c'est la pauvreté spirituelle, sentir sa misère? Est-ce que c'est la douceur de Jésus que je dois adopter? Est-ce que c'est le fait que je pleure et que je suis affligé? Est-ce que j'ai faim et soif de justice parce que j'ai subi une injustice? Voilà, c'est Jésus qui va répondre à ça. Moi, je ne peux pas y répondre, mais je sais que la parole de Dieu va y répondre. Et je vous laisse ce dernier verset de Hébreux 12 qui nous dit d'avoir le regard fixé sur Jésus. Parce que tout ce que vous vivez, tout ce que je vis, Jésus l'a vécu. Il a pleinement accompli les Écritures et il veut nous donner son joug pour nous inviter à nous mettre chacun sous son joug. Et il y a de la place pour tout le monde. C'est ça la bonne nouvelle. C'est que pour une paire de bœufs, une fois qu'on met 2 bœufs, il n'y a plus de place. Alors que sous le joug de Jésus, il y a de la place pour tout le monde. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen.